le premier tour de l'élection présidentielle, les Françaises, les Français vont élire la personne qu'ils auront choisie pour diriger ce pays. Je me souviens qu'un enseignant à l'Institut public de Nogent, qui s'appelle Sylvain Rougeant, qui d'ailleurs sera parmi nous d'ici à peu près un mois, il disait que tout chrétien devrait participer à la vie citoyenne, en votant pour celui qui lui semble être le moins mauvais. Je trouvais ça quand même pas mal. Tout chrétien devrait participer à la vie citoyenne. Nous sommes appelés, en tant que chrétiens, à participer à la vie citoyenne, comme pour nous aussi la société, pour celui qui semble être le moins mauvais. Et en tant que citoyen français, du moins pour celles et ceux qui le sont dans cette salle, nous avons effectivement le devoir d'être quand même sensibles, attentifs aux programmes que proposent les différents candidats, et notamment de voir peut-être dans quelle mesure ces programmes peuvent être en adéquation avec nos valeurs. Bon, c'est pas toujours facile, hein, je l'avoue. Mais finalement, le plus important, c'est de prier pour que Dieu nous éclaire par son esprit, qu'il nous aide à voter pour le personnage politique que le Seigneur a déjà prévu dans sa souveraineté. On parlait tout à l'heure de la souveraineté de Dieu. Il est important de savoir que Dieu dirige, contrôle toute chose. C'est Dieu, dans sa souveraineté, qui est maître de l'histoire. Et c'est lui qui met en place les autorités. Et bon, il y a ce passage qui dit, ah, je regarde le coupé alors que c'était là, il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Romains chapitre 13. Verset 1. Donc je referme là cette petite introduction, cet avant-propos. Et nous allons lire un psaume, le psaume 15. Le psaume 15. Psaume de David. Éternel, qui peut rester dans ton sanctuaire? Et qui donc peut demeurer sur ta montagne sainte? L'homme a la conduite intègre. Il pratique la justice et il dit la vérité qu'il pense au fond de son cœur. Il n'insulte pas son frère. Il ne raconte rien qui déprécie son prochain ou lui cause un préjudice. Il méprise l'homme vil, mais il honore celui qui respecte l'Éternel. Il tient toujours ses serments, même s'il doit en pâtir. Lorsqu'il prête de l'argent, c'est toujours sans intérêt. Il refuse qu'on l'achète pour condamner l'innocent. Qui se conduit de la sorte, rien ne pourra l'ébranler. Alors David commence son psaume en posant donc des questions, deux questions. Éternel, qui peut rester dans ton sanctuaire et qui donc peut demeurer sur ta montagne sacrée? Alors c'est comme si nous posions aujourd'hui les questions suivantes. Seigneur, est-ce que je suis toujours digne d'être en ta présence? Qu'est-ce que je peux faire pour rester toujours en communion avec toi? Et David donc pose ces questions, et ce sont des questions importantes à se poser en tant que chrétien. Parce que la parole de Dieu nous demande aussi de nous examiner régulièrement dans le but de rechercher toujours à lui plaire, dans le but de rechercher la sainteté. Alors David commence par ces questions, mais sans hésiter, il donne tout de suite la réponse. C'est l'homme à la conduite intègre. Et dans tout le reste de ce psaume, d'ailleurs, David va développer les caractéristiques d'un homme intègre. Alors, souvenez-vous, il y a à peu près un mois, dans une étude biblique, nous avions évoqué le personnage de David, la personnalité de David, un être humain comme nous, tout à fait comme nous, avec ses qualités, mais aussi avec ses défauts. Mais un être humain qui bénéficiait vraiment de la grâce de Dieu, comme nous aussi en tant que chrétiens, nous bénéficions de cette grâce de Dieu. Et David a été qualifié même de l'homme selon le cœur de Dieu, dans 1 Samuel chapitre 13, verset 14. Et dans un autre passage, dans 1 Roi chapitre 9, verset 4, l'Éternel parle de David comme quelqu'un qui a le cœur intègre, droit, obéissant à l'Éternel. Il n'est pas étonnant que dans beaucoup des psaumes de David, et notamment dans ce psaume que nous venons de lire, David aborde ce thème de l'intégrité. C'est un thème qui est cher à David. Et c'est aussi le thème que je souhaiterais développer ce matin, un thème qui n'est peut-être pas complètement étranger à l'actualité, finalement. un thème que je vous propose de voir en nous posant trois grandes questions. Alors, trois grandes questions pour relever le défi de l'intégrité. La première question, qu'est-ce que l'intégrité d'abord? Et la deuxième question, pardon, quel est l'enjeu de l'intégrité chez le chrétien? Et la troisième question, comment agir avec intégrité en tant que chrétien? Alors d'abord, qu'est-ce que l'intégrité? Alors l'intégrité, ce n'est pas l'intégrisme, hein, je vous rassure tout de suite, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas non plus l'intégration. L'intégrité, c'est un mot qui vient du latin integritas, et dont la racine signifie entier, total. Et si on ouvre le dictionnaire, voici le sens qu'on peut voir. Motivation première à être conforme à ce que l'on est réellement. Honnêteté. Absence de mauvaises intentions. Qualité d'une personne qui ne se laisse pas corrompre. État d'une chose qui n'a pas été altérée. Par exemple, une conserve alimentaire. Propriété d'une information qui n'a subi aucune altération pendant son utilisation ou pendant sa transmission. Je ne sais pas si vous connaissez un peu ce qu'on appelle le téléphone arabe. Une information qui rentre dans une oreille, ça passe par 10, 15, 20 personnes, et après la dernière information, ça n'a souvent rien à voir avec la première information. Il y a eu un problème d'intégrité de l'information. Alors dans le monde séculier, l'intégrité a inspiré quelques citations. Il y a une personne qui s'appelle Wayne Cheng, semble-t-il un écrivain américain d'origine chinoise, qui dit « L'intégrité engendre la crédibilité ». C'est-à-dire que quelqu'un qui est intègre est quelqu'un de crédible. Une autre citation de Svarup, de son prénom Vikas, indien. « La véritable épreuve de l'intégrité consiste à se montrer honnête, même à l'insu des autres. » Donc l'honnêteté déjà vis-à-vis de soi-même. Un chanteur, Arthur H., je ne sais pas si. L'intégrité est à la base de ce que nous faisons. Donc nos actes reflètent en fait l'état de notre intégrité. Sommes-nous intègres ou pas? Ça se verra dans nos actes. Il y a d'autres synonymes, donc on va impartialité, intégralité, probité, etc. Alors on passe assez rapidement sur cette définition de l'intégrité. Mais maintenant, il y a une question qui est très importante. Quel est l'enjeu de l'intégrité chez le chrétien? Alors pour l'intégrité, pour le chrétien, du moins, l'intégrité s'exerce à deux niveaux. D'abord, l'intégrité du cœur et l'intégrité en acte. Il faut savoir qu'on peut agir avec intégrité, il y a des personnes qui sont intègres, sans forcément être intègres intérieurement dans leur cœur. Mais à l'inverse, quelqu'un qui est réellement, authentiquement intègre dans son cœur, dans son être intérieur, le sera aussi au travers des actes, automatiquement. Et ça se verra au niveau de son comportement, ou au niveau de son attitude en société, par exemple. Alors, être intègre dans son cœur, l'intégrité du cœur, c'est avant tout donc une attitude de cœur, l'intégrité, dans le sens chrétien du terme, et c'est un caractère d'un croyant qui lui permet de s'efforcer d'agir avec honnêteté et sincérité. Être intègre dans une optique chrétienne, c'est d'abord être honnête vis-à-vis de Dieu. Mais personne ne peut être intègre dans son cœur si son cœur n'est pas lui-même entièrement changé, entièrement transformé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Changé par l'action du Saint-Esprit. Parce que le cœur de l'homme, dit la parole de Dieu, c'est un cœur qui est fondamentalement mauvais, tortueux par nature. C'est Jérémie qui dit dans Jérémie chapitre 17, verset 9, non pas notre Jérémie, écoutez, mais Jérémie le prophète, il dit « Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. » C'est ça la nature profonde du cœur de l'homme. Donc pour être intègre, pour qu'un cœur soit véritablement intègre, il faut qu'il soit changé. Un cœur changé, c'est-à-dire une nouvelle vie. Si vous demandez aux gens qui ont subi des transplantations cardiaques, si vous leur demandez voilà comment ils se sentent, j'en ai vu quelques-uns, pas face à face, mais à la télé, quand il y a des témoignages, ils disent c'est comme si j'avais une nouvelle vie, c'est comme si je suis passé par une nouvelle naissance. Dans la pensée biblique, celui qui a un cœur changé, c'est quelqu'un qui a
subi une transplantation cardiaque spirituelle. Quelqu'un qui est une nouvelle créature. La Bible parle aussi de nouvelle naissance. Par exemple, dans Jean chapitre 3. Et la question qu'on peut se poser, c'est, frères et sœurs, quelle est la nature de notre cœur aujourd'hui? Est-ce que c'est un cœur de pierre, insensible à l'amour de Dieu, ou un cœur qui aspire à être changé, ou peut-être qui a déjà été changé par l'Esprit de Dieu? L'intégrité, dans l'optique chrétienne, ça commence d'abord dans notre cœur. Et si nous faisons partie de celles et ceux dont le cœur a été transformé par Dieu, nous sommes appelés à garder ce cœur dans l'intégrité et refléter cette intégrité dans notre comportement au quotidien. C'est ça, justement, qui est l'intégrité en acte. Avoir donc une conduite intègre. Là, on revient à notre texte. Pour David, avoir une conduite intègre, David, voici, c'est l'homme intègre, et deux points, il énumère un certain nombre de principes moraux importants. Ainsi, l'homme qui a une conduite intègre, d'abord, c'est un homme qui pratique la justice, au verset 2b. Par nature, on a dit tout à l'heure que l'homme a un cœur mauvais, donc l'homme est incapable de faire ce qui est juste, à cause de sa tendance donc à faire le mal. Mais si cet homme a changé de cœur, mais c'est la grâce de Dieu qui va lui permettre de vivre selon la justice de Dieu. Il y a une parole qui dit dans Romains 6, 18, « Affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » Avant, nous étions esclaves du péché. Une fois notre cœur changé, nous sommes devenus esclaves de la justice. Et si nous sommes donc justifiés par la grâce de Dieu, nous serons à même de faire ce qui est juste. Nous userons par exemple de sagesse, de discernement. Dans toutes nos actions, nous n'aurons pas deux poids, deux mesures dans le traitement de litiges, par exemple, de conflits dans nos églises, dans nos foyers. Nous ne jugerons pas hâtivement notre prochain sur ses apparences, par exemple. Mais pratiquer la justice, elle n'est pas possible. Elle ne sera possible que dans la mesure où nous aurons revêtu jour après jour la justice de Christ. En laissant Christ vivre en nous, et en le laissant aussi être visible au travers de notre propre vie. Deuxième point, l'homme intègre, la femme intègre, quand on parle d'homme, c'est d'être humain, il dit la vérité qu'il pense au fond de son cœur. Ça veut dire qu'il dit ce qu'il pense, et il pense ce qu'il dit. Alors, situons-nous bien par rapport à ça, est-ce que c'est toujours le cas? Alors, selon les spécialistes en psychosociologie, dans la vie d'une personne, il y a trois réalités. Il y aurait trois réalités de sa personnalité. Il y a ce qu'on appelle le moi caché. Le moi caché, c'est notre état spirituel devant Dieu. Seul Dieu connaît cet aspect de nous-mêmes. C'est un état qui est invisible à l'œil nu. Je ne peux pas savoir quel est le moi caché de Florian, par exemple. Je ne peux pas savoir. Seul Dieu le sait. Il y a aussi ce qu'on appelle le moi privé, qui concerne les choses que l'on fait en privé, en termes de comportement, de parole. Alors c'est quelque chose qu'on fait peut-être avec nos conjoints, qu'on ne montrera pas aux autres. Quelque chose qu'on fait avec nos enfants, ou avec les personnes d'un cercle restreint de notre famille. Et il y a aussi ce qu'on appelle le moi public, le troisième moi. Moi public, c'est l'aspect de notre vie que nous voulons bien montrer au public. Et paraît-il que l'homme a une certaine tendance à privilégier d'abord le paraître, sauver les apparences, faire bonne figure. Et la vraie intégrité dans tout cela, la vraie intégrité suppose que le moi caché ne doit pas se distinguer du moi privé. Et de plus, le moi privé ne devrait pas être très différent du moi public. Je ne sais pas si vous me suivez. Ça veut dire que l'intégrité appelle une honnêteté, une transparence, une absence de toute hypocrisie, de mensonge ou de duplicité. Bref, une pratique de la vérité. Être vrai. Être intègre, c'est être vrai. Donc notre vie spirituelle, j'allais dire cachée, devrait s'étendre non seulement à la sphère de notre vie, privé, mais aussi au niveau de la sphère publique. En cela, il n'y en a qu'un qui l'a fait, c'est Jésus. C'était l'homme intègre parfait. Il n'a pas de double vie, de triple vie. Il ne disait pas à ses disciples, faites ce que je dis et ne faites pas ce que je fais. Il est la vérité par excellence. Alors, vous qui êtes parents, ou qui allez peut-être un jour être parents, ne dites pas à vos enfants, fais ceci, mais ne fais pas ce que je fais, fais ce que je dis uniquement. Sinon, je travaillais à Madagascar, avant, donc il y a encore une dizaine d'années de ça, lors d'une journée des... Je pense que c'était le 31 mai, une journée des non-fumeurs, ou sans tabac, je ne me souviens plus exactement le terme. Et dans mes responsabilités, j'avais invité quelqu'un pour sensibiliser les étudiants à ne pas fumer, ou à s'arrêter de fumer. Et donc, il y a eu une conférence d'un spécialiste qui était venu, donc, qui donnait des conseils, etc. Et à la fin de la conférence, eh ben, le gars s'est mis à fumer. Et il ne s'est pas mis à fumer devant les gens, mais j'ai su qu'il avait fumé. Et donc, j'ai dit, mais je ne savais pas que vous fumiez. Je dis, oui, mais bon, j'arrive pas moi-même à m'arrêter. Et c'était lui, c'était un médecin, un spécialiste, hein, qui donnait des... Voilà. Donc, ça passe pas. Et c'est comme ça l'intégrité. Si moi, je me dis, voilà, je suis chrétien, j'aime le Seigneur, et j'ai une vie, en fait, qui ne reflète pas du tout cette réalité, eh bien, mon témoignage sera décrédibilisé, il n'aura aucune valeur. Un point encore de cet homme intègre. Il n'insulte pas son frère, il ne raconte rien qui déprécie son prochain ou lui cause un préjudice. Donc, verset 3. Chers amis, combien de fois, même dans les foyers chrétiens, même dans nos églises, la communion fraternelle est mise à mal à cause de notre langue. On se lance des mots, parfois des noms d'oiseaux, dans le but de blesser, bien sûr. On bavarde, on critique, en privé, on expose les défauts des autres, puis on se dit, c'est un sujet de prière. Sous prétexte que c'est un sujet de prière, en fait, on médit les gens. Ça arrive, hein. Ça fait peut-être sourire, mais ça arrive. Nous sommes encore des gens imparfaits, n'est-ce pas? Et une des grandes tentations de l'être humain, qu'il soit chrétien ou non d'ailleurs, c'est d'avoir le dernier mot. Ça, il faut avoir le dernier mot. On appelle ça le mot qui tue. Tac! Et puis on s'en va vite pour ne pas recevoir une réplique. Mais la parole de Dieu nous demande au contraire que toute parole qui sort de notre bouche soit une parole qui édifie. Éphésiens 4, 29. Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté. Qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi, elles font du bien à ceux qui vous entendent. Frères et sœurs, nos paroles, est-ce qu'elles aident les autres à grandir dans la foi? Si nous sommes chrétiens, si nous sommes intègres, en tout cas si nous recherchons notre vérité, eh bien, ça doit aussi se ressentir au niveau des paroles qui sortent de notre bouche. Il méprise l'homme vil, mais honore celui qui respecte l'Éternel. Regardez comme ça, ça a l'air d'être un peu sévère. Hein. Mépriser l'homme vil. Mais je pense qu'il faut se garder de prendre cette phrase au premier degré. Il ne s'agit pas d'avoir une attitude hautaine ou guerrière ou méprisable vis-à-vis des gens sans foi ni loin, mais quand David parle de mépriser l'homme vil, il s'agit plutôt de montrer notre aversion vis-à-vis du mal, vis-à-vis du péché. Être clair dans notre comportement vis-à-vis du péché. Comment nous comportons-nous vis-à-vis de l'impiété? Est-ce que nous sommes dans la compromission ou dans le rejet de tout ce qui tend à ridiculiser ou insulter notre Dieu? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé que quelqu'un insulte vraiment Dieu en votre présence. Quand on distribue des évangiles, parfois ça fait mal. Quand on reçoit des... Alors, il y a une différence comme ça, mais quand on voit vraiment qu'il y a une insulte, on se moque de Dieu, parfois on ne sait pas trop quoi faire. Mais là, la parole nous demande justement d'avoir une attitude de rejet par rapport à ce type de comportement. Vous savez, David, dès sa jeunesse, il ne supportait pas que l'on se moque de l'Éternel. Il voyait ce grand gaillard de 3 mètres de haut, Goliath, insulter Dieu. Et il était le seul, alors qu'il devait avoir, alors je pense qu'il était encore adolescent à l'époque, à dire, mais est-ce que vous laissez cet homme-là insulter Dieu comme ça? C'est pas possible. Et il est allé jusqu'à le défier, et vous connaissez la suite de l'histoire. La parole de Dieu, cependant, ne nous appelle pas à éliminer physiquement ceux qui se moquent de Dieu, malheureusement, dans le passé. C'est arrivé. Mais nous demande de dénoncer, de condamner toute manifestation de valeur morale irrespectueuse envers Dieu. Et toute œuvre venant des ténèbres, comme dit Paul dans Éphésiens chapitre 5, verset 11. Et honorer tout ce qui donne gloire à Dieu. Il tient toujours ses serments aussi dans l'intègre, même s'il doit en pâtir, verset 4 et 5. Alors, dans le contexte de l'Ancien Testament, tenir ses engagements, c'était plus qu'un devoir. C'était un commandement. En Nombre 33, verset 3. Si un homme fait un vœu à l'Éternel, s'il prend certains engagements par serment, il ne violera pas sa parole, il agira conformément à ce qu'il a dit. Alors ça me fait, je ne sais pas pourquoi, mais ça fait penser à certains engagements que prennent les candidats à l'élection présidentielle. Alors, pas forcément pour cette année, hein, mais de manière générale, il y a toujours des candidats qui font des promesses, qui font des engagements. On s'engage, on promet, et certainement que les engagements sont sincères. Hein. Mais une fois au pouvoir, il me semble, hein, peut-être que je me trompe, que pas un seul président de la République n'a tenu 100% de ses engagements. Ou alors peut-être que je me trompe. Peut-être que je me trompe, mais si jamais je me trompe, dites-le moi à la fin du culte. Ils ont peut-être été sincères, mais ils n'ont pas pu le faire pour des raisons peut-être économiques ou autres. Mais alors, si on donne un engagement, si on fait un engagement, comment nous situer par rapport à ce passage qui dit « Il agira conformément à ce qu'il a dit ». Dans un commentaire biblique, concernant ce passage précis, donc c'est le commentaire de MacDonald, on trouve un exemple de situation. Je cite cette situation. Supposons qu'un croyant accepte de vendre sa maison pour 100 000 euros. Mais avant que les documents de la vente soient signés, il découvre qu'il aurait pu la vendre à une société à 120 000 euros. Comme il a donné sa parole au premier acquéreur, il ne revient pas sur sa promesse. Est-ce que vous aurez fait la même chose? J'espère que oui. Et ce n'est pas forcément toujours le cas. On vit dans une société matérialiste, hein, et l'aspect matériel de la vie, même de la vie chrétienne, met souvent l'intégrité à rude épreuve. Hein. Il y a certains chrétiens qui sont tellement près de leurs sous, ils sont très pointilleux dans les transactions et ils sont prêts à remettre en question leurs engagements. Bon, c'est quelque chose qui finalement ne les arrange finalement pas. Ah non, je m'étais trompé, c'était pas ça que je voulais dire, finalement ça m'arrange pas. Donc, je chers amis, chers frères et sœurs, Dieu s'attend à ce que nous soyons fidèles et loyaux dans nos engagements vis-à-vis d'autrui. Même si au final, cela nous coûte. Peut-être en temps, en argent, en réputation, tout ce que vous voulez. Mais si nous sommes engagés, sauf cas de force majeure, ça peut arriver, eh bien, accomplissons vos engagements. Si vous avez promis à un frère, une sœur, tiens, je vais venir t'aider à déménager, ben, accomplissons cela. Sauf cas de force majeure. L'homme intègre, la femme intègre, refuse qu'on l'achète pour condamner l'innocent. En clair, une personne intègre est une personne qui refuse la corruption. Et dans l'Ancien Testament, et notamment dans les livres prophétiques, Dieu dénonçait par la bouche de ses prophètes les pratiques corruptrices de son peuple. Il y avait aussi des représentants de l'autorité qui étaient eux-mêmes corrompus. On voit par exemple dans Ésaïe au chapitre 4, verset 4, non, chapitre 1, même verset 4, « Malheur à toi, nation coupable, peuple chargé de crimes, race de malfaiteurs et enfants corrompus, vous avez abandonné l'Éternel. » Jérémie aussi dira, même les prophètes, même les prêtres sont corrompus et jusque dans le temple, ils font le mal. Jérémie 23, 11. La corruption, chers amis, c'est comme un cancer qui gangrène la société. Et il y a hélas des pays où elle est complètement généralisée, j'en sais quelque chose. Malheureusement, ceux qui devraient donner l'exemple ne sont pas toujours des exemples. Ils se laissent parfois corrompre eux-mêmes. Alors on dit souvent que dans les pays occidentaux, la corruption est moindre dans les pays un peu moins développés. Peut-être, ça ne se voit pas vraiment comme ça. Mais en tout cas, qu'il soit du continent européen, africain, américain ou autre, l'être humain reste toujours le même, avec cette inclinaison naturelle au péché, cette inclinaison naturelle à se laisser corrompre ou à corrompre. Et là se pose la question en tant que chrétien, comment sommes-nous au niveau de la société? Si nous sommes dans les affaires, dans le business, comment est-ce que nous gérons notre société, par exemple? Est-ce qu'il nous est arrivé de tricher, de frauder, d'avoir la phobie administrative et de ne pas payer le fisc, par exemple? Est-ce que nous avons accepté des rentrées d'argent douteuses, des gains à molette, des biens mal acquis? Avec 2-9, parler de ce gain mal honnête. Et si tel était le cas, est-ce que ça peut être le cas? Un stylo qu'on a pris dans un bureau, qui n'était pas à nous et qu'on n'a pas rendu, ça c'est un bien mal acquis, hein? Une gomme ou un stock, je ne sais pas. Si tel était le cas, reconnaissons nos fautes. Repentons-nous devant le Seigneur en renonçant sincèrement à nos pratiques condamnables. Réparons aussi nos erreurs au niveau de la société. Si nous avons volé quelque chose à la société, restituons-le. Et si nous devons être condamnés pour ça, eh bien, tant pis. Chers amis, la vie chrétienne, c'est une vie de haut standard moral. Un standard que nous devions toujours avoir en ligne de mire. Mais ce n'est pas facile. C'est un combat de tous les instants. On rentre dans un processus d'amélioration continue où il y aura encore des failles, où nous tomberons encore. Personne ne peut se vanter aujourd'hui d'être intègre à 100%. Si vous entendez ça, c'est un mensonge. Mais nous devons rechercher, il n'y a que Jésus qui a pu être intègre à 100%. Mais nous devons rechercher cette intégrité. Finalement, elle s'inscrit dans notre sanctification. Et la parole de Dieu dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et l'enjeu, dans ces cas-là, de l'intégrité, pour nous qui sommes chrétiens, c'est de rester, comme on a vu tout à l'heure, comme on a vu tout à l'heure dans le verset 1, rester dans le sanctuaire de l'Éternel et demeurer sur sa montagne sacrée. Rester dans le sanctuaire de l'Éternel et demeurer sur sa montagne sacrée. Finalement, c'est rester continuellement dans la communion avec le Seigneur et d'être gardé en vue du salut qui nous est promis en Jésus-Christ. Alors en conclusion, frères et sœurs, l'intégrité, c'est la base morale de tout chrétien. Sans cette base, sans ce fondement, nous serons dans le semblant, nous serons dans la fausseté, nous serons dans le paraître et dans l'erreur. Et notre témoignage n'aura aucune valeur. Ne nous étonnons pas si notre témoignage ne passe pas. Peut-être que c'est notre intégrité qui est mise en cause. Et aujourd'hui, nous sommes invités à nous situer par rapport à toutes les qualités de l'homme intègre qui ont été énumérées par David. Selon ce psaume 15, il était question de justice, de vérité, de fidélité aux engagements, de dénonciation du mal, d'incorruptibilité. Comment nous situons-nous par rapport à toutes ces valeurs morales? Et faisons l'effort de tendre avec l'aide du Saint-Esprit vers ce haut standard. Alors d'accord, la barre est haute, je suis d'accord avec vous. Mais sachons aussi que nous ne pouvons pas y arriver par nos propres forces. Avec Dieu, tout devient possible. Alors, il y aura peut-être des moments où notre intégrité sera mise à rude épreuve. Je parlais tout à l'heure de la corruption de manière globale. À Madagascar, peut-être dans d'autres pays aussi, mais c'est un pays malheureusement où la corruption règne. Du plus petit échelon jusqu'au échelon, la haute sphère de la société, nous est arrivé avec mon épouse, bien en dessous, d'être en face d'une tentation. Il faut payer pour avoir quelque chose, donc payer de manière illégale, donc corrompre quelqu'un, et être corrompu soi-même après. Et donc nous avons toujours, avec l'aide de Dieu, avec la grâce de Dieu, tenu bon. Et même si ça nous coûtait des fois le temps, autre chose, on ne se laissait pas corrompre. Une fois, on est allé nous promener, je ne me souviens plus où, et c'était la période où la pêche était interdite. Et on voyait quand même des gens acheter notamment du poisson. Alors on s'était arrêté une fois, pas pour acheter du poisson, mais pour acheter autre chose. Et puis il y a des gens qui arrivent avec des poissons. Et on s'est dit, mais la pêche est interdite là, actuellement. Pourquoi vous vendez du poisson? Et puis ils disent, mais vous ne voulez pas acheter notre poisson? On dit, non, nous respectons la loi. Et puis les autres qui arrivent là-bas, ils disent, ils ne veulent pas acheter du poisson. Non, ils respectent la loi. Et puis ils sont partis avec leur poisson. S'il y a quelqu'un qui est vraiment tenté par le poisson, il peut se dire, bon, c'est, La loi ne permet pas qu'on pêche le poisson en ce moment, mais je vais quand même en prendre juste un petit poisson. Non, ça s'arrête. C'est une question d'intégrité de cœur qui se reflète au niveau de notre manière de nous comporter. Il y a un exemple de quelqu'un qui était intègre, c'était Job. Intègre, fidèle à Dieu. Un modèle d'intégrité quand même, dit le Seigneur. Mais sa famille et ses biens lui ont été enlevés. Il a été durement éprouvé physiquement. Et bien qu'il soit passé par des moments de doute ou même de révolte vis-à-vis de Dieu, s'il lisait le livre de Job, il a gardé sa foi et son engagement moral envers Dieu. Sa femme lui a dit tu persévères dans ton intégrité, malgré tout ce qui t'arrive, maudit Dieu et meurt. Non, il a dit non, mais on reçoit le bien de Dieu, pourquoi on ne reçoit pas aussi le mal? Et il a gardé quand même sa foi envers Dieu. Le Seigneur Jésus, chers amis, de par sa nature divine, c'est le modèle parfait de l'intégrité. Et ma prière, c'est que chacun puisse se laisser prendre par notre Seigneur, nous laisser contrôler notre cœur, laisser son Esprit Saint diriger notre vie tout entière, en ayant pour principal objectif de lui ressembler et de rester en pleine communion avec lui. Est-ce là véritablement votre souhait, votre désir aujourd'hui? Ainsi, nous pourrons être des enfants de Dieu, intègres, recherchant du bon l'intégrité, au même titre que David et une autre, celui d'Abraham, Job, et faire ainsi la fierté de notre Seigneur. Et là, je vais terminer avec ce dernier verset. Alors là, j'ai oublié de faire passer, excusez-moi. Hein. L'enjeu de l'intégrité, finalement, c'est rester dans le sanctuaire de l'Éternel, dans sa montagne sacrée. Et ce dernier verset qui dit: qui se conduit de la sorte, rien ne pourra l'ébranler. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous parles au travers de ce psaume et nous permets, Seigneur, de réfléchir à notre situation, de nous positionner par rapport à tous ces standards moraux que tu nous demandes, Seigneur, de rechercher. Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes loin encore d'atteindre ce standard moral. Nous sommes loin d'être parfaits. Mais Seigneur, nous sommes au bénéfice de ta grâce. Ta grâce qui nous justifie à chaque fois, Seigneur, que voilà, nous tombons, nous nous repentons de nos fautes, Seigneur. Parce que tu es ce Dieu qui pardonne, qui a pardonné une seule fois en Jésus-Christ sur la croix. Seigneur, merci de nous relever à chaque fois que nous tombons, que nous puissions, Seigneur, avoir toujours à cœur d'avoir cette sainteté, cette intégrité en ligne de mire dans notre vie. Que nous soyons, Seigneur, de ceux qui vivent dans la vérité, non pas dans le faux-semblant, non pas, Seigneur, avec une double vie, mais, Seigneur, avec une vie authentique. Merci, Seigneur, de nous aider. Et je te prie, Seigneur, aussi pour celles et ceux qui n'ont pas encore fait ce pas de t'accepter comme Seigneur et Sauveur, peut-être qui ont soif aussi de te ressembler, et soif d'être pardonnés de leurs péchés aussi. Et Seigneur, que tu agisses aussi dans leur cœur, et qu'ils puissent, Seigneur, être interpellés par ton amour et se tourner vers toi. Dans le nom de Jésus. Amen.